truc. On a commencé cette émission par sous-générique, dirais, et c'est Alas Barricadas, qui était donc l'hymne de la CNT, qui était une organisation syndicale ouvrière, une des principales organisations syndicales d'ailleurs, anarcho-syndicaliste, et qui, dont on va vous parler d'ailleurs dans peu de temps. Et donc, on a donc pour animer, pour intervenir dans ces émissions, on a Edouard qui est bien voulu venir nous faire part de des travaux qu'il a fait sur ce terrain-là. Et donc on a divisé notre intervention, enfin nos spéciales sur quatre thèmes, quatre mercredis. Et donc là, ce mercredi plus précisément, on va aborder un certain nombre de sujets. Notamment, en commençant par le début, on parle souvent de 1936, la guerre d'Espagne. Or, il y a un vrai débat sur le terme guerre d'Espagne parce que c'est pas forcément justement une guerre, mais c'est plutôt une révolution sociale.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'on utilise souvent le terme de guerre d'Espagne parce qu'il est assez pratique finalement. C'est un terme générique qui permet de pouvoir vraiment englober tous les aspects qui sont vraiment nombreux à propos de cette période en Espagne. On entend aussi souvent les termes de révolution espagnole, l'expression finalement aussi de guerre civile espagnole sous le franquisme, et encore aujourd'hui de la part de l'extrême droite, on utilise le terme de croisade, pas besoin de le définir. Il s'agit bien de la part de l'extrême droite de la volonté de mettre en avant le fait qu'une tentative bolchevique aura été écrasée par les soldats du Christ. Donc, par rapport à toutes ces expressions, il est peut-être nécessaire de donner une petite définition, de revenir rapidement. On l'utilise par exemple guerre civile, pas forcément dans un sens innocent. Guerre civile, ça permet totalement d'occulter les caractères révolutionnaires ou contre-révolutionnaires finalement qu'on trouve dans cet événement qui marquera l'histoire de l'Espagne pendant 3 ans. Au-delà de ça, il faut savoir qu'en Espagne, l'ex-président Aznar avait eu une phrase il y a quelques années assez intéressante sur la question de la guerre d'Espagne, de la guerre civile, en disant que finalement cet épisode de l'Espagne, c'était l'affrontement entre deux conceptions différentes de la liberté, deux volontés de parvenir au pouvoir. Et c'est assez intéressant de constater ainsi que qu'il y a une difficulté en Espagne comme ailleurs à revenir sur cet épisode douloureux. En France, il n'y a pas eu, en tout cas au XXe siècle, d'épisode qu'on puisse identifier une véritable guerre civile, même si les années 30, et notamment l'année 1936 en France, portent les germes d'une grande division dans l'opinion, dans les idéologies, et qu'on retrouve directement dans le contexte européen. Et en Espagne, finalement, cette année 1936, tout ce qui va mener finalement à la guerre d'Espagne, à la guerre civile, on retrouve en Espagne donc toute la concentration des affrontements idéologiques et de la volonté aussi de la part du mouvement ouvrier de stopper, d'arrêter la progression du fascisme, en tout cas des régimes autoritaires partout en Europe. Et cette confrontation en 1936, elle passe par les armes. En Allemagne, en Italie, la résistance au fascisme avait été tentée d'un point de vue institutionnel, avec les résultats qu'on sait. En 1922, Mussolini parvient au pouvoir sans coup férir. En 1933, Hitler est élu démocratiquement par les Allemands. En 1936, la situation est différente, puisque tout le monde le sait, il s'agit d'un coup d'État tenté par une partie de l'armée espagnole, pour ne pas dire d'ailleurs l'ensemble de l'armée espagnole, qui échoue. Et il échoue notamment par l'intervention de la rue, l'intervention des syndicats et au sens plus large des travailleurs en général. Et ça, c'est vraiment à relier au contexte européen de l'époque. Pourquoi est-ce qu'en 1936, en Espagne, finalement, le fascisme trouve un coup d'arrêt, alors que dans les autres pays européens, finalement, il n'a cessé de parvenir au pouvoir? On peut rapidement revenir faire un panorama de l'Europe à ce moment-là, mais le Portugal de Salazar, en 1936, est à tout d'une dictature, en tout cas d'un régime extrêmement autoritaire. C'est la même chose donc en Italie, en Allemagne. C'est le cas également en Pologne, par exemple. Bon, je ne parle pas de l'URSS à ce moment-là, mais bon, en tout cas, la situation est particulièrement difficile pour les travailleurs au sens restreint, et finalement pour les libertés démocratiques et l'émancipation des individus. Donc, ce contexte des années 30, finalement, on le retrouve en Espagne, pas forcément qu'en 1936. Il existe déjà des germes avant, notamment dès l'intervention, dès l'arrivée de la République en Espagne. Bon, sans vouloir faire un cours d'histoire, faut simplement dire qu'en 1931, les Espagnols choisissent de revenir à la République, donc de sortir du système de la monarchie, et le roi s'enfuit d'ailleurs à ce moment-là. Il se réfugie à Rome, au Vatican, où il est particulièrement bien accueilli. Et donc en 1931, les Espagnols choisissent ce système. Mais pour les travailleurs, la situation n'est pas finalement les grands espoirs, la grande fête du retour de la République en Espagne passée. Finalement, les espoirs se concrétisent, ont une grande difficulté à se concrétiser. C'est le cas notamment pour les paysans espagnols. Il faut savoir que l'Espagne est un pays qui, au XXe siècle, est en retard d'un point de vue de développement des industries notamment, et que la paysannerie espagnole est encore représente une part de la population extrêmement importante. Et pour les travailleurs des grandes villes industrielles, par exemple Madrid, Barcelone, pour ne citer que ces deux-là, si effectivement il y a eu une amélioration, notamment en profitant entre guillemets de la Première Guerre mondiale en Europe, l'Espagne qui était neutre à ce moment-là a beaucoup profité en fourbissant des denrées et des armes aux deux camps. Mais pour les paysans espagnols, la situation reste la même en 31. C'est une situation qu'on pourrait comparer, bon, évidemment, toute proportion gardée, avec celle de l'Amérique du Sud, avec les images traditionnelles qu'on a, c'est-à-dire des grands domaines agricoles, latifundières, des propriétés gigantesques qui appartiennent à une toute petite portion de la population, et des paysans qui n'ont pas de terre et qui louent leur lopin auprès de grands propriétaires. Et l'avènement de la République avait suscité beaucoup d'espoir, notamment la possibilité d'obtenir chacun une propriété, ou de pouvoir réfléchir sur d'autres moyens de production. Mais la République bourgeoise ne leur apporte pas toutes ces réalisations. Et dès 1931, en fait, il commence à y avoir des troubles dans le pays, et des troubles qui sortent un peu du domaine de la révolte paysanne habituelle, de la chouannerie, un petit peu, pour prendre des élans de plus en plus politiques et de plus en plus marqués idéologiquement. C'est le cas, par exemple, en Andalousie, pardon, qui est donc la région du sud de l'Espagne, qui est une région extrêmement agricole et dans laquelle se concentre le plus grand nombre de grandes exploitations. Et là, on commence à se revendiquer de l'anarchisme. On commence en fait à s'appuyer sur la présence d'un syndicat extrêmement puissant qui s'est développé avec une rapidité fulgurante en Espagne depuis sa création en 1910. C'est la CNT, la Confédération Nationale du Travail, qui repose sur des bases anarcho-syndicalistes. Et
oui, je te coupe. On va faire une petite pause musicale pour l'illustrer quand même, pour
Allons-y.
Ce que tu dis. Donc ça sera Alerta Obreros pour illustrer donc ce petit passage.
Ha triunfado el tenente obrero, el obrero sigue alerta y con los pies en el suelo. El pueblo vuelve a salir en defensa de los presos y revienta las prisiones sin la venia del gobierno. También la reforma agraria la emprende a su modo el pueblo, en encinar de la parra, de esa de cenicientos. Los terrenos del señor los toman los lugareños, sembrando en cotos de caza sin permiso del gobierno. La reforma campesina se propaga como el fuego, desbordándose hacia el sur por los montes de Toledo. En España el viejo arado va sembrando solo nuevo. Los hambrientos tienen pana de despecho del gobierno. Los hambrientos tienen pana de despecho del gobierno.
On repart sur la Révolution espagnole. Édouard, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le morceau?
Alors, cette chanson, elle appartient donc à tout le florilège des chansons, on pourrait dire révolutionnaires, mais en fait des chansons de travailleurs, hein, de l'Espagne des années 30, et, mais plus largement du début du XXe siècle. Donc, on chante évidemment beaucoup en Espagne, comme dans le reste de l'Europe, mais en Espagne... tous ces chants révolutionnaires dont cette chanson Alerta Obrero sont particulièrement intéressantes parce qu'elles illustrent vraiment ce contexte juste avant 1936, des ouvriers conscientisés qui commencent à s'organiser, créent un véritable front un front social contre l'oligarchie au pouvoir, contre la république bourgeoise de 1931. Et donc on parlait tout à l'heure des tentatives d'insurrection localisées, puis de plus en plus généralisées pour arriver donc en juillet 1936 avec ce que l'on sait. J'ai parlé rapidement d'Andalousie, mais faut parler également de ce qui se passe en Catalogne en 1932, par exemple, dans la région du Haut-Llobregat. Là, le communisme libertaire est carrément déclaré dans un village. La population et les travailleurs de l'endroit se réunissent et décrète qu'à partir de maintenant, l'autorité du gouvernement s'arrête aux frontières de la vallée et du village de Manresa. Et vraiment, c'est une société nouvelle qui apparaît. Elle ne dure pas très longtemps et elle n'est même pas écrasée dans le sang d'ailleurs. Les autorités alors ne souhaitent pas forcément faire de publicité ni de faire des martyrs de ces gens, mais en tout cas l'intention est là. Il y a vraiment la volonté de sortir d'un système et de créer finalement quelque chose qui repose non plus sur des bases étatiques ou centralisées, mais sur l'organisation locale, la réorganisation économique de l'endroit.
Et c'est pas la première fois en fait qu'il y a eu des tentatives comme ça pour faire des petits villages autogérés, voire des entreprises autogérées, aussi bien en Espagne, en Italie, voire même en France, alors que bon, on n'en parle pas plus que ça, quoi.
C'est ça, dès les années 20, effectivement, pour vraiment se donner une limitation chronologique, il y a de plus en plus de volonté de créer ex nihilo une nouvelle organisation de la société. Alors c'est le cas en Italie du Nord par exemple dès les années 20, mais on retrouve aussi la même chose par exemple en Hongrie lors de la révolution hongroise qui elle fut écrasée dans le sang en 1920. C'est l'époque de Béla Kun par exemple, où là on parle des conseils ouvriers paysans et on commence à réfléchir à une autre organisation de la société. Alors faut quand même mettre un bémol, hein, parce que qu'on voit beaucoup dans les années 20-30, c'est aussi en imitation du système soviétique. Hein. Donc généralement, c'est une critique de la révolution bolchevique. On considère que donc les bolcheviques ont trahi la révolution, l'essence même de la révolution prolétarienne, et on cherche donc à recréer des bases adaptables à l'Europe occidentale. C'est le cas par exemple des luxembourgistes, de Rosa Luxembourg, pardon, et des spartakistes, qui effectivement cherche à adapter ce système. Mais là, il y a vraiment autre chose, hein. C'est notamment la reprise des outils de travail. Donc on parlait de l'Italie dans les années 20 tout à l'heure, et c'est complètement ça que font les travailleurs italiens, hein. C'est occuper